que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, c'est par cette phrase du célèbre médecin Hippocrate que nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Vous l'aurez certainement deviné, votre émission Santé pour tous va s'apesantir aujourd'hui sur l'alimentation et la nutrition. À cet effet, nous recevrons Madame Suivon Cécilia, diététicienne nutritionniste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Avec elle, nous allons parler des différents troubles et solutions aux problèmes liés à la malnutrition, au surpoids, à l'obésité et à l'anorexie. Elle prodiguera aussi des conseils alimentaires pour les bébés, les enfants, les personnes âgées, sans oublier bien évidemment les diabétiques et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez la bienvenue sur les ondes de Volcan FM à l'écoute de votre magazine Santé pour tous. Les connaissances scientifiques actuelles permettent de comprendre très précisément en quoi notre alimentation influe sur notre santé dans un bon ou un mauvais sens. En effet, l'adoption d'un régime alimentaire sain tout au long de notre vie contribue à prévenir toutes les formes de malnutrition, ainsi qu'un grand nombre de maladies et pathologies non transmissibles. Pourtant, la production croissante d'aliments transformés, l'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie ont provoqué un changement des habitudes alimentaires. Les gens consomment désormais davantage d'aliments très caloriques, riches en graisses, en sucre libre, en sel, sodium, et beaucoup ne mangent pas suffisamment de fruits, de légumes et de fibres alimentaires, comme celles apportées par les céréales complètes. La composition exacte d'une alimentation diversifiée, équilibrée et saine varie selon les besoins individuels, le contexte culturel, les aliments disponibles localement et les habitudes alimentaires. Mais les principes de base de ce qui constitue un régime alimentaire sain demeurent les mêmes. Et il existe une multitude d'aliments pour équilibrer son régime alimentaire, surtout ici dans la région de l'extrême nord. Au regard du danger quotidien que représente notre assiette, la nécessité d'avoir une alimentation saine doit être une préoccupation universelle. En effet, ce n'est un secret de polichinelle pour personne que la consommation excessive de sucre augmente les risques de caries dentaires. L'excès de calories consommé dans les aliments et les boissons riches en sucre libre contribue également à une prise de poids mauvaise pour la santé, pouvant entraîner surpoids ou obésité. Les dernières données factuelles démontrent également que les sucres libres ont un effet sur la tension artérielle et sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Il en est de même pour le sel, le potassium et le sodium, dont l'excès contribue à l'hypertension artérielle, qui elle-même accroît le risque de cardiopathie et d'accident vasculaire cérébral. Idem pour les aliments riches en graisses, qui sont à l'origine du surpoids, lui-même facteur de risque de plusieurs maladies non transmissibles. Comment donc avoir une alimentation saine et équilibrée? La solution passe nécessairement par la consommation importante des fruits et légumes que notre région regorge. En effet, ici chez nous, les légumes font partie des denrées les plus accessibles par toutes les couches sociales. À cela s'ajoute bien évidemment plusieurs autres habitudes alimentaires qui nous seront conseillées par notre invité au long de cette émission. Mais avant, nous avons baladé notre micro dans les rues de la ville de Marois pour recueillir les connaissances et habitudes de certains concitoyens sur leur alimentation et leur nutrition. Écoutons-les d'abord.
Je m'appelle Doum Yannick. Selon moi, une diététicienne, je peux dire que c'est comme un médecin ou un chargé dans un personnel hospitalier qui, en fonction de notre organisme ou en fonction de nos groupes sanguins, par rapport à notre poids, par rapport à notre âge, peut déterminer la façon ou la manière dont on doit se nourrir, comment équilibrer notre organisme, allonger l'espérance de vie de notre organisme. C'est un peu ça. Il y a un lien entre l'alimentation et la santé, dans le sens que si on ne s'alimente pas bien, bien sûr, nous n'allons pas être en santé, vu que ce sont ces aliments-là qui nous permettent d'être en santé, d'être en vie. Vu que l'organisme ou le corps humain a besoin de certaines vitamines, de protéines, pour pouvoir être en mouvement. Ouais. Il y en a plein d'aliments qui, à la longue, par excès de consommation ou d'abus, peuvent nuire à notre santé. Exemple, nous avons le cas du sucre. Consommer trop de sucre peut conduire à l'obtention d'un diabète chronique de type 1 ou de type 2. Pour moi, un repas équilibré, c'est juste la manière dont il faut manger, la manière de se nourrir. Dans équilibré, nous avons équilibre. Donc, un repas équilibré, c'est ce repas-là qui, par jour, nous procure un équilibre dans notre organisme. Par jour, s'il faut peut-être manger, nous allons dire que pour manger, il faut soit le matin un petit déjeuner, constitué des fruits et légumes un peu. Dans le dîner, nous pouvons avoir un peu de soupe, de poulet. Bon, pour avoir une bonne alimentation équilibrée, il faut plus éviter les aliments gras, les aliments qui contiennent trop de graisse, trop de sucre. Personnellement, je dirais qu'il y a des fois où j'équilibre et des fois pas. Ça dépend des moyens à bord d'abord et ensuite dépend de ta volonté. Parce que si tu ne veux pas conserver ton organisme en bonne santé, automatiquement tu vas te retrouver avec un corps que tu ne voudrais pas avoir.
Je m'appelle Aïssa. D'après moi, une diététicienne nutritionniste est une experte de la nutrition et de l'alimentation. Donc, je pense que son rôle est de permettre aux personnes de mieux manger, d'avoir un repas équilibré et sain pour pouvoir être en bonne santé. Un repas équilibré, c'est un repas complet, fruits, légumes et tout ce qui va avec, nutriments, eau, sels minéraux. Non, pour combattre la malnutrition, déjà, il faut communiquer des communications de masse en sensibilisant la population sur l'importance d'avoir un régime équilibré, par exemple. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des aliments dangereux pour la santé. Peut-être à utilisation fréquente ou abusive. Il y a certains aliments qui sont plus dangereux que d'autres, comme la viande rouge. Mais toutefois, ça ne veut pas dire qu'on doit complètement la retirer de notre alimentation. Il faut juste essayer de la manger de manière modérée. Et il y a aussi le sel, le sucre, certaines graisses qui ne sont pas contrôlées.
Je me nomme Pierre-Amadi Frédéric. Bon, l'alimentation et la santé, je peux dire quoi? Si quelqu'un qui veut maintenir sa santé, il peut manger à sa faim. Parce que la famine aussi cause des maladies. Donc il faut manger à sa faim pour maintenir le corps en bonne santé. Bon, un repas équilibré, je peux dire, c'est un repas que tout être humain peut prendre afin de maintenir le corps en équilibre, tout simplement. Type personnel, je me bats. En tant qu'étudiant, je me bats. Je varie quand même les aliments. Par exemple, si je mange le foleret le matin, à midi, je prends peut-être le jus orange, quelque chose comme ça. Et le soir, je rentre, je fais le couscous, je mange, et puis je digère avec le fruit, je dors ma chose. Il y a des aliments qu'il ne faut pas aussi prendre à l'excès. Par exemple, je peux dire, moi personnellement, si je prends les mangues, ça me cause de maux de ventre. Bon, la viande, quand quelqu'un mange beaucoup de la viande, il peut attraper la maladie qu'on appelle peut-être goutte. Le sel aussi, il y a la tension qui augmente. Le sucre, il y a le diabète. Il faut prendre la quantité que le corps demande. Il ne faut pas exagérer.
Je m'appelle Yeno Daouda Marie Noël. Bon, il y a un rapport entre l'alimentation et la santé. Parce que on ne peut pas vivre à l'écart entre les deux choses. Donc les deux choses se voient, ça se complète l'un entre l'autre. Bon, le lien est que tu n'as pas une bonne alimentation, tu ne peux pas avoir une bonne santé, une amélioration dans le cadre de la santé. Une bonne alimentation, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'on varie l'alimentation. On ne doit pas manger chaque jour les mêmes choses. Bon, c'est la qualité et non la quantité pour commencer d'abord. Et ensuite, éviter de manger chaque jour des aliments gras. Donc varier. C'est-à-dire qu'on peut manger aujourd'hui l'aliment gras et demain on varie. mon alimentation est équilibrée, dans le sens que je ne mange pas trop des aliments gras. Bon, tu as dit on contrôle l'alimentation parce que excès d'aliments gras, ça t'amène à prendre beaucoup du poids et tu encaisses beaucoup de maladies. Tu as dit tu ne peux pas t'épargner à des maladies telles que la goutte, l'hypertension, le diabète, les trois maladies là. On ne peut pas s'épargner quand on est gras. C'est pour cela que moi je n'aime pas consommer les aliments gras pour avoir une longue vie. Il y a les aliments qui, à la longue, peuvent créer des maladies comme la viande, qui peut créer la goutte. Et nous avons encore le sel, qui peut créer la tension. Nous avons aussi le sucre pour créer la diabète.
Alors moi, je me nomme Todou de Goldamba. Un diététicien, je peux dire que c'est un personnel d'hôpital. Il oriente la façon donc, dont les habitudes alimentaires qu'un individu doit adopter pour le bon fonctionnement de son organisme. Un repas équilibré doit constituer peut-être les vitamines, les protéines, tout ça. Donc tout, c'est ce que je peux dire. Hein. Les aliments qui peuvent constituer un danger pour l'organisme, non, je ne connais pas. Moi, je sais pas, moi, je mange tout. Hein. Tout ce que je trouve, je consomme. Je n'ai pas le choix.
Je m'appelle Maïga Mouatou Maliki. L'alimentation et la santé. Je peux dire que, bon, si on mange bien, on est en bonne santé. Si on mange mal, on est bon. On peut dire qu'on est mal nourri, quoi. Bien manger, c'est manger à sa faim. Bon, on peut prendre son petit déjeuner le matin à 6 heures. On prend le déjeuner à 12 heures. Et on prend alors le déjeuner encore à partir de 18 heures ou 20 heures. Bon, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qu'on peut varier selon ses moyens. Bon, si on n'a pas de moyens, on peut faire avec le moyen de porc qu'on a, quoi. Je peux manger, bon, peut-être le couscous du riz tous les jours ou le mil. Bon, il faut pourvu que je change quand même la sauce. Donc je ne suis pas obligée de manger tout le jour si c'est le foulé, si en tout le jour en train de manger le foulé riz. Donc si je mange peut-être que le foulé riz à midi, je peux prendre le gombo frais le soir, même le kelan. Bon, la vie n'est pas quand même dure, je mange quand même équilibré pour dire.
Je m'appelle Mohamed Alidou. Le rapport qu'il y a entre l'alimentation et la santé est que quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas manger. Et quand tu manges bien, tu seras en bonne santé. Bien manger, c'est-à-dire que tu manges les aliments équilibrés ou bien tu manges bien, comme on dit, car les nourritures qui sont bien, bien comme ça. Là. Ça a un bon goût. On ne gère pas si ça contient des éléments chimiques qu'on dit souvent à l'école. Bon, quand j'ai l'argent, je mange bien. Quand je n'ai pas l'argent, je mange ce que je trouve. Ça dépend de ma poche. Oui, oui, bien sûr. On a par exemple la viande. La viande, si tu manges beaucoup de viande à la longue, ça peut te créer le rhumatisme. Il y a aussi le sucre qui peut te créer la diabète. Il faut avoir l'argent premièrement, il faut avoir l'argent pour avoir une bonne alimentation. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas avoir les périodes difficiles là.
De retour dans ce studio de Volcan FM, toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, dans laquelle nous parlons aujourd'hui de l'alimentation et de la nutrition. Pour approfondir ce sujet, nous accueillons sans plus tarder l'experte en la matière, Madame Suivon Cécilia, diététicienne nutritionniste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Madame Suivon Cécilia, bienvenue sur les antennes de Radio Série.
Merci, merci.
Alors, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de Santé pour tous de l'alimentation et de la nutrition. Et nous avons convié parce que vous êtes effectivement une experte en la matière. Déjà, je voudrais savoir, vous êtes nutritionniste, diététicienne. C'est quoi un nutritionniste et quelle formation est-ce qu'on doit suivre pour exercer ce métier-là?
Un nutritionniste est chargé d'anticiper et de diagnostiquer, de prendre en charge les troubles liés à la nutrition, du diabète, de l'obésité et en passant par le cholestérol, l'intolérance alimentaire, l'anorexie et le boulimie.
La formation pour devenir nutritionniste, c'est l'université, ce sont les écoles de formation en médecine.
Il y a les écoles professionnelles, oui, qu'on suit aussi là-bas. Il y a aussi les écoles d'université qui font aussi ça dans les écoles. Il faut d'abord une bonne fondation en nutrition. Oui, une bonne fondation en nutrition, même un BTS, un degré, un master en nutrition, oui.
Quelle est la différence entre un nutritionniste et un diététicien?
Bon, le diététicien, c'est un spécialiste paramédical de la nutrition qui donne les conseils nutritionnels individuels et adaptés. Donc, il éduque ou réduit toutes personnes ayant les troubles d'alimentation ou de la santé. Les diététiciens travaillent avec les malades et gens en bonne santé, mais les nutritionnistes beaucoup plus limités dans les personnes qui sont en bonne santé. Et les nutritionnistes sont beaucoup plus les médecins qui ont les possibilités de prescrire les examens, d'analyser et aussi les médicaments. Il arrive aussi que des diététiciens, nutritionnistes et médecins nutritionnistes collaborent ensemble pour le bon déroulement du parcours et du soin de leurs clients communs.
Donc un diététicien, c'est une formation à part, et un nutritionniste, c'est quelqu'un qui a fait la médecine.
Oui, oui, mais ils travaillent tous ensemble pour améliorer la santé de nutrition chez les patients et les gens qui sont en bonne santé.
Alors, rentrons directement de plein pied dans notre sujet qui est lié justement à l'alimentation et à la nutrition. Est-ce qu'il y a des facteurs qui exposent des gens à la malnutrition, surtout ici dans notre région, et quels sont les risques liés à cette malnutrition-là?
Bon, pour commencer, la malnutrition n'est pas seulement un manque de nourriture. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent exposer les gens à la malnutrition, surtout dans notre région de l'extrême nord, comme il y a la pauvreté, l'instabilité familiale, les mauvaises assaisonnements, les mauvaises pratiques de sévrage, l'analphabétisme, l'ignorance, une guenille foyer et maladies inévitables. Le fait de ne pas respecter l'allaitement maternel exclusif. Donc tout ça là, cause un problème de malnutrition chez les enfants et aussi pour les adultes.
Alors est-ce que la malnutrition comporte des risques? Est-ce que le fait justement d'être malnutri peut engendrer des conséquences?
Oui. Le risque de la malnutrition entraîne un séquel physique, parfois mental. Les mi-premiers jours de la vie de l'enfant sont les plus déterminants car une mauvaise alimentation peut avoir des conséquences irréversibles sur sa croissance et sa santé, donc de la maladie et des mortalités aussi infantiles.
Alors, en tant que diététicien, nutritionniste, de par votre expérience ici dans notre région, est-ce que les problèmes de malnutrition sont assez récurrents? Quel est en moyenne le nombre de patients que vous consultez par mois pour ces problèmes-là?
Oui, c'est récurrent, mais c'est plus élevé dans certains mois et bas à certains mois. Donc, il y a certains mois que c'est élevé et il y a certains mois aussi que c'est moyen. Il y a certains mois aussi qu'on ne trouve pas des cas malnutris, mais ça varie de 4 à 10 parmi lesquels sont comptés aussi les adultes dedans. Oui, oui.
Lorsqu'on parle de la malnutrition, c'est un peu englobant. Je suppose qu'à l'intérieur, il y a quelques particularités, justement. Dites-nous, quels sont les principaux problèmes liés à la nutrition pour lesquels les patients que vous recevez, justement, viennent vous voir?
Il y a les patients qui viennent pour le diabète, les hypertensions, l'obésité, la malnutrition qu'on vient de parler, les gens aussi qui veulent perdre le poids, les anémies, les gastrites aiguës, tout ça là, ce sont les choses que la nutrition peut gérer.
Alors, quels sont les facteurs justement, lorsque vous parlez de ceux qui viennent ici à cause du surpoids, quels sont les facteurs qui sont à l'origine du surpoids ou de l'obésité et quels sont les risques liés à ces deux problèmes de santé?
La cause fondamentale de l'obésité et du surpoids est un déséquilibre énergétique, donc entre les calories consommées et dépensées. Ils sont principalement dus à une alimentation trop riche et une activité physique faible.
Donc en une phrase, il faut manger peu et être actif.
Bien sûr.
Justement, une personne qui est obèse ou alors qui est en surpoids, est-ce qu'il court des risques? Est-ce qu'il est exposé à certaines, ou est-ce qu'il est prédisposé à certaines pathologies?
Oui, les gens qui ont les problèmes d'obésité avec le surpoids ont le risque d'avoir le hypertension. Et il y a aussi le diabète qui peut aussi avoir. Et quand la tension est là, c'est aussi facile pour avoir les AVC, oui, par rapport à ça.
Alors, dites-moi. En quoi est-ce que vos services en tant que diététicien, nutritionniste peuvent aider les patients justement à traiter le surpoids ou l'obésité? Quand on sait que généralement des personnes qui ont ces problèmes d'obésité ou de surpoids font parfois recours à plusieurs techniques, soit des cures amincissantes, soit des jeûnes, mais n'arrivent pas vraiment à se débarrasser de leur surpoids. En quoi est-ce que vos services ici peuvent les aider dans ce sens?
Bon, pour les aider, pour leur donner les conseils par rapport à ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils doivent éviter. Et comment il doit modérer les quantités de ce qu'il doit manger et à l'heure aussi qu'il doit manger et éviter certains nutriments.
Supposons que je suis un patient devant vous et que j'ai un problème de surpoids. Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, d'abord, il faut éviter d'abord les choses qu'ils ont trop avec trop de graisse. Les choses qui sont trop riches, trop de calories, trop de sucre et beaucoup de gens qui consomment aussi d'alcool ou bien trop de jus. Tout ça là peut aider aussi, peut faire pour que la personne a un surpoids. Donc, pour que la personne soit en bon, dans le bon poids, il faut que la personne essaie à éviter toutes ces choses et consommer maintenant plus de fibres et essaie aussi de faire beaucoup des activités, beaucoup de sport, parce qu'il y a aussi les gens qui leur vie sont les vies sédentaires, comme on peut dire. Donc il faut que la personne fasse plus des activités pour aider à utiliser tout ce qu'ils sont en train de consommer.
Tout à l'heure, vous parliez également des heures propices pour le repas. Quelles sont-elles?
Normalement, on conseille souvent que la plus grande repas doit être le matin. Parce que pendant la journée, tu vas utiliser ça. Et maintenant, quand ça arrive maintenant le soir, à partir de 19h, 20h, 21h, ça c'est l'heure que tu ne vas pas consommer encore trop gras. Oui, les choses qui sont lourdes, il faut essayer à diminuer et tu consommes les choses qui sont légères. Parce que dans la nuit, pour digérer toutes ces choses, c'est un peu difficile. Donc, il faut amener ça pendant le matin, la journée, et puis tu évites plus de ça dans le soir.
Est-ce qu'il y a une heure à laquelle il faudrait arrêter de manger?
Non, on ne peut pas dire, parce qu'il y a souvent même des gens qui s'élèvent à minuit même pour manger, mais ça dépend maintenant de ce que tu manges à l'heure là. Donc, si ce sont les choses qui sont légères, je ne pense pas que ça dérange pas.
Lorsque un patient vient vous rencontrer ici pour un problème de diabète, quel conseil nutritionniste pouvez-vous lui prodiguer pour justement l'aider à lutter contre cette maladie?
Bon, le conseil de diminuer toute source de sucre direct et indirect et augmenter la consommation de fibres, surtout les salades, les légumes, et éviter les repas aussi trop tard dans la nuit, comme on a déjà parlé.
Quand vous parlez de sucre direct et indirect, on les trouve dans quel aliment par exemple?
Le sucre direct, ça se trouve beaucoup plus dans les aliments comme les fruits, les jus, le sucre en morceaux. Donc, tout ce qui a le sucre, donc ça a les effets directs dans le corps. Donc, et maintenant, pour le sucre indirect, ce sont les sucres qu'on trouve dans les choses comme le couscous, le riz, les ignames, les pommes de terre, parce que ça prend encore de temps pour se transformer en glucose dans le corps avant que ça se digère.
En un mot, toute personne souffrant de diabète doit éviter le sucre, qu'il soit direct ou indirect.
Non, pas pour éviter, modérer la quantité. Il ne faut pas exagérer, oui. Mais pour le sucre direct, on les conseille parce que normalement, les fruits sont très importants pour le système. On ne peut pas leur dire qu'il faut qu'ils évitent. Ils peuvent consommer, mais maintenant, il faut les quantités. Donc, les quantités sont très importantes dans le diabète.
Excusez-moi, Madame Cécilia, je voudrais être un peu plus concret. Un autre exemple, vous avez en face de vous quelqu'un qui a un diabète. Vous lui dites qu'il faut modérer sa quantité de sucre. Concrètement, quel est le dosage qu'il doit prendre? Prenons quelqu'un, par exemple, qui prend la bouillie le matin, qui prend, je sais pas quoi, le couscous à midi, les ignames le soir. Comment est-ce qu'il doit mesurer les quantités de sucre qu'il consomme pour ne pas justement franchir la ligne rouge?
Bon, pour diminuer les quantités, comme les choses, les fruits, normalement, les patients diabétiques doivent consommer. Mais si on prend le cas des pastèques, peut-être que le tranche de 50 peut être suffisant pour un client diabétique. Et quand on parle maintenant de le sucre, normalement dans la bouillie que le patient consomme, il y a voilà d'abord le sucre. Donc, quelles sont les nécessités pour encore ajouter le sucre? Il y a les patients qui peuvent consommer sans mettre le sucre et c'est toujours bon. Mais il y a aussi le sucre diabétique qu'on vend dans les pharmacies. Si le patient pense qu'il ne peut pas consommer sa bouillie sans mettre le sucre, là maintenant, il peut acheter et mettre. Mais il ne faut pas peut-être mettre un morceau ou bien deux morceaux, ça suffit dans sa bouillie. Et maintenant, quand on parle de les ignames dans le soir, voilà le sucre aussi qu'on vient de dire. Donc, il faut essayer à éviter ce genre de choses dans la nuit. Mais consommer ça plus en journée, après-midi ou bien le matin, ça va.
Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des patients souffrant de troubles alimentaires et notamment de l'anorexie? Si oui, comment est-ce qu'un tel problème se soigne?
Ok, oui. Il s'agit de conseils aux clients de régimes alimentaires riches en variété et densité énergétique. Donc, on va aider à restaurer maintenant la santé physique, bien-être psychologique et prévenir les factures de rechute. Ensemble avec l'aide des médecins, les médicaments que les médecins aussi vont prescrire.
Donc, si j'ai bien compris, vous arrivez de les recevoir ici, ceux qui ont des problèmes anorexiques?
Oui, ça arrive de temps en temps, mais pas trop, très fréquent quand même. Oui, oui.
Parlons donc justement, c'est quoi l'anorexie?
L'anorexie, c'est pour bon, les gens qui ne veulent pas manger parce qu'ils ont peur d'augmenter le poids. Oui. Donc, du tout de ça, maintenant, ils commencent à maigrir à cause de ça.
Quelle alimentation est-ce que vous pouvez recommander à un patient souffrant de problèmes cardiovasculaires? Quel aliment est-ce qu'il doit privilégier? Quel aliment est-ce qu'il doit éviter? Quelle hygiène alimentaire est-ce qu'il doit respecter?
Il faut privilégier les légumes. Donc, les légumes sont très importants pour les patients qui ont les problèmes de cœur. Il faut privilégier les légumes, les fruits, les graines entières, les poissons, les huiles végétales. Il faut aussi éviter l'alcool, modérer les chairs rouges, les charcuteries, les glucides raffinés et les aliments et boissons avec sucre ajouté, les sodium et les graisses saturées.
Oui. L'hygiène alimentaire, les horaires, et s'il y a une façon de cuire les aliments de manière particulière, est-ce qu'il faut manger à des heures privilégiées des heures ou bien c'est le même principe que pour les diabétiques?
Bon, normalement, les gens en bonne santé, normalement, il faut modérer. Il y a certaines heures qu'il faut essayer à tout prix de diminuer les repas, surtout dans la nuit. Donc, on peut dire le même chose pour les cas diabétiques. Donc, il ne faut pas exagérer les aliments trop lourds ou bien avec trop de graisses dans la nuit. Normalement, même les graisses ne sont pas même conseillées pour les gens. Donc, il faut diminuer, il faut manger léger dans le soir.
Alors, Madame Cécilia, au regard justement du pouvoir d'achat ou le niveau de vie faible des populations de notre région, est-ce que les services que vous offrez ici sont accessibles à tout le monde, en termes de coûts, bien sûr?
C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a certains gens qui viennent, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter. Il y a même des fois, même avec les cas de malnutrition, les patients disent souvent qu'ils n'ont pas l'argent pour. Parce que puisqu'on faisait les thérapeutiques pour les aider pour augmenter le poids, pour aider aussi pour que le système de l'enfant se développe correctement, normalement, il y a des fois qu'on les disait de payer. Parce que puisque c'est l'hôpital aussi qui achète toutes ces choses, normalement, on ne peut pas aussi donner gratuite. Mais il y a des fois, quand on trouve que le patient est vraiment, il n'a pas les moyens, on peut aussi contacter le service social. Comme ça, là, on les aide et ça va. Et il y a des fois aussi que les conseils ont donné gratuite pour aider à améliorer la santé de nutrition des patients, des enfants.
Parlant justement de la nutrition des enfants, ici dans notre région, on recense justement plusieurs cas de malnutrition chez des enfants. Quelle est l'alimentation recommandée pour les nourrissons et les enfants? D'abord, même le sévrage, comment est-ce qu'il doit se passer déjà? Parce qu'on observe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des mamans qui servent des enfants, soit tôt, soit brusquement. Comment doit se passer le sevrage? Une fois que l'enfant est sevré, comment est-ce qu'il doit être alimenté pour justement éviter les problèmes de malnutrition?
Bon, normalement, on conseille toujours l'allaitement maternel exclusif de 0 jusqu'à 6 mois. Ça, là, c'est ce qu'on conseille toujours. Parce que le lait maternel a tout ce que le bébé a besoin à partir de 0, parce que ça a tout que le bébé a besoin. Mais il y a souvent ici, les mamans ici commencent à donner l'eau de 0, même et dès que l'enfant sort, ils commencent à donner l'eau parce qu'ils ont peur que oh, il y a la chaleur, comme ça là, l'enfant sera déshydraté ou bien l'enfant. Donc tout ça là, ce n'est pas conseillé. Parce que même le lait maternel, c'est l'eau mélangée avec la nourriture de l'enfant, avec les médicaments de l'enfant. Donc tout ça là, on conseille souvent seulement le lait maternel parce que ça, c'est bien riche et bon pour la santé de l'enfant. Et maintenant, il y a l'alimentation complémentaire enrichie, donc de 6 maintenant jusqu'à 8 mois de l'enfant. À partir de 6 à 8 mois maintenant, la maman peut, avec les petites choses qu'elle peut avoir, on essaie toujours pour enrichir seulement pour donner à l'enfant à chaque fois que l'enfant veut manger. On essaie à enrichir et puis on donne. Ici, là, on trouve, il y a les soja qui sont bien riches, il y a aussi les arachides qui sont bien riches. Il y a aussi le lait. Pour les mamans qui peuvent avoir les moyens pour acheter, ils peuvent acheter. Mais pour le soja et les arachides, c'est plus facile à trouver ici. Et même à 500, tu peux trouver une tasse d'arachide ou bien de soja. Comme ça, là, c'est pour essayer maintenant à faire frire et écraser. Et puis, utiliser maintenant le farine de ça pour enrichir les repas de l'enfant, soit la bouillie de l'enfant, tout ce que l'enfant consomme. Et maintenant, il y a la diversification des aliments, des nourrissons, toujours enrichis aussi de 9 mois plus jusqu'à quand l'enfant continue à marcher, tout, que l'enfant continue à grandir normalement.
Vous avez dit, c'est vrai, le sevrage, c'est pas à quel moment. Vous avez parlé de 6 mois, allaitement exclusif. De 6 à 8 mois, on enrichit l'alimentation. Et le sevrage devrait normalement intervenir à quel moment?
Le sevrage, c'est-à-dire pour arrêter l'enfant de le lait maternel. Normalement, c'est pratique qu'on doit arrêter le lait maternel à 2 ans de l'âge de l'enfant. Oui, ça là, c'est le principe normal.
Ok. Est-ce que dans la pratique, ça se fait? Parce que nous, ce qu'on constate ici justement, c'est que les mamans, à partir de 6 mois, comme vous avez dit, 8 mois, maximum 1 an, les mamans passent à autre chose. Est-ce que dans la pratique, vous recevez des patients ici justement, ou des parents de patients ici qui ont ce problème-là?
Oui, et ce n'est même pas pratique parce qu'ils n'arrêtent. Donc, à partir de 6 mois même, il y a des fois même, le maman arrête l'enfant de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, ce n'est pas évidemment ici. Donc, ce n'est pas ce que les mamans pratiquent.
Alors, poursuivons notre émission. On a parlé là maintenant des bébés. Passons maintenant à une autre catégorie sociale très vulnérable, les personnes âgées. Pour les personnes âgées, quelle doit être la bonne hygiène alimentaire pour les aider justement à renforcer leur défense immunitaire? Parce qu'on sait que plus on tend vers le vieillissement, plus la défense immunitaire aussi s'affaiblisse. Et il faut compenser cela avec une alimentation saine et équilibrée. Comment est-ce qu'un quelqu'un qui est âgé doit s'alimenter?
Normalement, comme tu as bien dit, quand ils sont en train d'âger, le système devient encore plus faible. Donc, pour les âgés, les aliments équilibrés avec beaucoup de fruits aussi sont très importants. Les légumes, moins de sucre et sodium, les grains entiers, les haricots, les protéines maigres et poissons, sans oublier aussi beaucoup d'eau pour les patients, pour les gens qui sont âgés, oui.
On parle de protéines maigres, ça renvoie à quoi exactement?
Protéines maigres, c'est-à-dire les protéines qui ne sont pas gras, comme on peut dire. Parce qu'il y a les protéines qui ne sont pas très conseillées pour les gens, comme les chairs rouges, parce qu'il y a souvent même, on trouve beaucoup de... Les chairs rouges n'est pas normalement trop conseillées pour les gens. Et quand il faut manger, il ne faut pas exagérer la quantité. Et si on doit consommer, il faut que ça soit toujours bien fumé aussi avant qu'on fait consommer. Oui, mais les maigres sont, il y a le poisson, il y a le poulet qui sont très conseillés et c'est très bon pour les poissons.
Dans le cas de figure où la personne n'a que son bœuf ou alors la viande de bœuf qu'il peut manger, est-ce que les parties qu'on appelle souvent les boyaux des intestins, c'est toujours une chair, une protéine maigre ou bien c'est une protéine agressive?
Oui, on peut dire que les boyaux ne sont pas très gras ou bien il n'y a pas trop de problèmes avec les boyaux. Mais aussi, on constate que quand on achète les boyaux, là, il y a trop de graisse qui est souvent collée sur les intestins, collée sur les tripes, tout ça là. Donc, il faut toujours essayer parce que ça là, ce sont les graisses saturées qui n'est pas bon pour la santé. Donc, il faut toujours essayer aussi de passer ça au feu pour que ça soit un peu fumé, pour que la graisse là se glisse avant qu'on ne peut pas ça pour que les gens mangent.
On a passé déjà en revue les personnes, les catégories sociales vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Maintenant, pour les adultes bien portants, quels sont les éléments qui doivent constituer un régime alimentaire sain pour eux?
Les fruits, les légumes viennent toujours parce que c'est très, très important. Donc, on met l'accent sur les fruits, les légumes. Toujours aussi les graines entières, les aliments pauvres en graisse saturée et les produits laitiers en moins graisse. Donc, moins de sucre aussi et moins de sodium. Ça aide beaucoup, ça va beaucoup amener beaucoup de santé, de nutrition.
Vous savez que lorsqu'on donne des noms scientifiques, parfois les auditeurs sont perdus. Est-ce qu'on peut avoir quelques catégories d'aliments qui sont recommandés dans nos marchés ici? Quand vous parlez de légumes, par exemple, ici chez nous, il y a quels légumes qu'on peut trouver qui sont recommandés? Les fruits, lesquels? Les viandes, lesquels?
Tous les légumes et tous les fruits sont bien pour la santé, oui. Donc, et quand on parle maintenant des... Les aliments pauvres en graisse saturée, c'est ça que je viens de te dire. Il y a les aliments comme le poisson, le poulet, qui sont très bien, qui ont moins de graisse qu'on peut consommer sans problème. Et maintenant, pour la viande, donc normalement, les gens peuvent manger tout ce qu'ils peuvent, mais il faut mettre l'accent sur les fruits, les légumes et les graines entières, les aliments pauvres en graisse saturée, comme je viens de dire, et les produits laitiers et moins de graisse, moins de sucre aussi, et moins de sodium. Oui, oui.
Alors, dans nos habitudes alimentaires, nous avons certains éléments dont on dit qui, à la longue, vont présenter un danger pour notre santé et qu'il faut modérer ou éviter. Est-ce que cela est vrai? Si oui, quels sont ces aliments-là?
Oui, tous les aliments qu'on vient de citer en haut sont bien, mais il faut diminuer. Donc, les aliments qui sont trop en graisse, comme on vient de dire, les aliments qui ont trop le sucre, aussi trop de sodium, il faut aider à diminuer. Et l'alcool, il ne faut pas exagérer, oui, pour boire. Et les jus, c'est conseillé plus les jus naturels. Il y a les choses comme le royoro qu'on peut boire avec moins de sucre, ça ne dérange pas. Il y a le jus de gingembre, il y a aussi les jus de baobab, tout ça là sont super bien.
Il y a également des diététiciens qui pointent du doigt le cube. Est-ce que le cube est dangereux pour notre santé?
Le cube n'est pas, ce n'est pas comme si c'est trop dangereux en fait, mais il ne faut pas, parce que souvent on conseille que si tu veux mettre, si tu prépares la nourriture, si tu, il faut toujours décider de mettre soit tu mets le cube ou bien tu mets le sel. Mais le cube est plus riche plus que le sel. Donc si tu choisis à mettre le cube, si c'est possible que tu peux éviter le sel, tu évites, parce qu'il y a toujours aussi le sodium dans le cube. Oui, le sel est bon. Même si tu ne consommes pas le cube, tu peux consommer les sels en moins quantité, pas exagéré aussi. C'est bon, ça ne dérange pas.
Alors, Madame Cécilia, de manière générale, au-delà de ce qu'on s'est déjà dit ici, est-ce que vous avez d'autres conseils pratiques pour aider nos auditeurs, les habitants de Maroua et ses environs, à avoir une alimentation saine et surtout équilibrée?
Bon, il faut toujours, essayons toujours à manger équilibré et privilégier les fruits, les légumes. Il faut modérer aussi les huiles végétales et éviter les graisses saturées. Et moins de sucre, de sel, le cube qu'on vient de dire aussi. La colle et surtout faire beaucoup d'exercices va aider beaucoup pour la santé. Et n'oublions pas aussi de consommer beaucoup d'eau entre temps.
Lorsqu'on parle souvent de repas équilibré, c'est quoi un repas équilibré? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de repas équilibré?
Un repas équilibré, c'est-à-dire il faut que le repas soit complet. Et quand on dit complet, il faut que les protéines soient dedans, il faut que les glucides soient dedans, il faut que les fibres, les vitamines, les minéraux, l'eau, tout ça là, il faut que ça soit avec la graisse, tout ça là, c'est un repas équilibré. On peut dire peut-être que le couscous de riz avec le lalo ou bien c'est quelin avec l'arachide dedans, avec un peu de poisson ou la viande, un peu d'huile. Et après ça, peut-être que tu manges même un orange avec beaucoup d'eau. Ça n'est pas équilibré.
Madame Cécilia, merci beaucoup. J'espère que nous avons très bien compris que vous n'étiez pas très à l'aise avec le français parce que ce n'est pas votre langue de prédilection. Mais pour ceux justement qui sont d'expression anglaise, je vais vous prier de faire a little summary in English, please.
Okay. To live healthy, we must learn to eat healthy. And eating healthy requires that we eat balanced meals. And balanced means meat, you need to consume a meal that has proteins in it. You have your carbohydrates, you have your vitamins, you have your minerals, you have your fats or your oils, and then that's just it. And water to complete it. That's a balanced meal, yes.
Madame Cécilia, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Serré.
Merci beaucoup.
Amis auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission Santé pour tous au cours de laquelle nous avons parlé de l'alimentation et de la nutrition. Grâce à l'expertise de Madame Subon Cécilia, diététicienne nutritionniste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine, que nous remercions une fois encore pour ses précieux conseils. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à recourir au service d'un diététicien pour soigner vos habitudes alimentaires afin de limiter au maximum les risques de survenance des maladies et allonger votre espérance de vie. Pour ceux souffrant déjà de pathologies nécessitant un régime alimentaire particulier, les services d'un diététicien revêtent une importance capitale pour votre santé. De façon générale, pour avoir une alimentation saine, il faut manger beaucoup de fruits, légumes et céréales. Il faut éviter les aliments riches en graisse saturée, en sucre et en sel. Il faut limiter sa consommation d'alcool, privilégier l'eau et les boissons naturelles. Il faut aussi éviter la sédentarité en pratiquant une activité physique régulière. Nous devons avoir une bonne hygiène alimentaire car celui qui mange bien se maintiendra en bonne santé. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Nicole Massaï à la réalisation, Maxino à la technique, David Bayan à la coordination, et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.